J'aimerais ce matin vous parler d'une étoile, ou plutôt d'un homme qui chanta l'inaccessible étoile, aussi bien que l'impossible oubli, d'un homme qui poursuivit son rêve d'enfant jusqu'au bout, le mit en tout cas au-dessus de son confort pour devenir lui-même, ou au moins essayer. Je voudrais vous parler d'une quête dont on aimerait qu'elle soit celle de chacun, qu'elle ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la prudence, du pragmatisme ou de la peur. Est-il le premier rappeur, le premier slammer, cet enfant de la bourgeoisie, ce fils du plat pays parvenu au sommet de la chanson française ? Qu'a-t-il connu de l'amour, ce grand pudique déclarant que s'il avait été beau, jamais au grand jamais il ne serait devenu chanteur ? Quand on a que l'amour ne me quitte pas, serait-il possible qu'il n'ait justement connu de l'amour que l'inaccessible ? Qu'il ait avec l'amour raté son rendez-vous ? Fut-il vraiment misogyne, celui qui nous émeut aux larmes chaque fois qu'il chante « Mathilde, Mathilde est revenue ? » Faut-il, pour devenir soi et pour contrer la désespérance, faut-il simplement de la persévérance ? Faut-il, pour trouver enfin sa lumière, regarder en face sa part d'ombre, mais si elle est à l'intérieur, peut-on la regarder en face ? Est-ce ainsi que Jacques Brel a trouvé son étoile, ainsi qu'il est devenu lui-même ? Pour en parler ce matin, sous un soleil de Platon un peu inhabituel, j'ai la joie de recevoir deux femmes, Élodie Frégé, bonjour, et Stéphanie Elbaz. Stéphanie Elbaz, vous êtes la productrice mais surtout l'autrice d'un magnifique film musical, Une journée avec Brel, qui passe ce soir sur France 3 à 20h40. Élodie Frégé, vous êtes bien sûr chanteuse, actrice, comédienne, autrice, compositrice, interprète, mais vous êtes, pour le coup, ici, aux côtés d'Alain Souchon, de Louane, de Lio, de Sofiane Pamart, de Camille Lelouch, de Thomas Dutronc, de Dave, j'oublie, de Luigi Pablo, de Enrico Macias, de Abdel Malik et de tant d'autres. Vous êtes dans ce magnifique film musical dans lequel Gaëtan Roussel, en chef d'orchestre et directeur artistique, vous accompagne dans la répétition des chansons d'une soirée hommage à Brel. Tout ceci, bien sûr, dans des lieux, des bars, des canaux, des salles de concert qui ont compté pour Brel et nous parlent de lui. Vous y faites d'ailleurs, Élodie Frégé, en duo avec Charlie Winston, une sublime reprise du Port d'Amsterdam qu'on va bien sûr écouter bientôt. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints sous le soleil de Platon, sous l'inaccessible étoile de Platon, devrait-on plutôt dire, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette belle question, comment Brel est-il devenu lui-même ? Et par-delà, mais vous l'avez compris, comment on fait nous tous pour se rapprocher de sa propre étoile, pour se rapprocher de son étoile.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Alors Stéphanie Elbaz, Élodie Frégé, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Je vais commencer cash. On va à la fois parler de ce très beau film musical qui passe ce soir sur France 3, mais aussi de vous, parce qu'on parle de nous tous, c'est une émission de philosophie existentielle. Eh bien, je vous pose la question à toutes les deux. Qu'avez-vous appris de Brel dans ce travail que vous ne connaissiez pas ? Et par là même, qu'avez-vous appris de vous-même ?
Qui commence ?
Élodie, allez-y.
Qu'ai-je appris de Brel ? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est fait de plusieurs pelisses. Ouais. C'est comme un oignon, en fait. Il y a toujours des choses à découvrir. Et même, peut-être que lui-même n'est jamais allé au fond du fond des choses pour s'atteindre. Et on le sent d'ailleurs dans sa manière d'exprimer les choses à l'écrit et sur scène.
Ouais.
Mais qu'est-ce que j'ai découvert ? Je crois que c'est la première fois que pour le coup, pour l'émission, je partageais cette chanson Amsterdam qui a porté chance dans ma vie. Je vous raconterai peut-être pourquoi.
On va l'écouter bientôt, elle est dingue. C'est sublime ce que vous avez fait.
On a adapté finalement, c'était une version unique parce que Bowie l'avait reprise magistralement. Ouais. D'ailleurs, c'est Mort Schumann, je crois, qui avait fait la traduction. Et c'est vrai que c'était pour moi un peu dangereux de chanter cette chanson moitié français, moitié anglais.
Ouais.
Et finalement, j'avais jamais rencontré Charlie Winston avant. Ça a été, je crois que la première prise qu'on a faite, il s'est passé un truc. On était sur les canaux.
Écoutez, on va l'écouter tout de suite.
Ah écoutez, allons-y.
Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors, d'un geste grave, alors, le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière.
On the pole of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks, and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam who have given their bodies to
it. Alors évidemment, je suis désolé d'interrompre, c'est sublime. Je me tais un peu, écouter les chœurs, comment ça monte.
Tout est improvisé en fait.
C'est sublime, alors.
C'est ça qu'on apprend de Jacques Brel en fait. Tout est indéfini, enfin jusqu'au bout de tout, on peut aller et on peut reprendre ses chansons, on peut les...
Bah c'est marrant parce que je l'avais senti, je voulais vous demander, quand vous êtes mis à chanter comme ça les chœurs, pendant que lui a repris, c'est de l'impro.
Oui, c'est de l'impro.
Et ça monte, c'est très beau, il y avait quelque chose un peu de la reprise de Bowie justement dans la façon dont lui il chante, et vous vous décollez, enfin, c'est vraiment sublime. Et donc du coup Stéphanie Elbaz, c'est une bonne façon de découvrir votre film musical, parce qu'en fait c'est pas vraiment un docu, ça dure 2 heures, et c'est présenté un peu comme une narration, c'est comme si Gaëtan Roussel accompagnait tous les chanteurs, chanteuses que j'ai évoqués, dans des répétitions en vue du spectacle qui a lieu le soir même, qu'on ne voit pas finalement dans le docu, et on voit toutes les répétitions des chansons.
C'est ça, je voudrais juste revenir sur la tête qu'a fait Élodie quand elle s'est écoutée, parce que c'est assez génial. En fait, elle ne s'est jamais réécoutée.
Mais non, c'est la première fois que j'entends la version.
Et en fait, elle était étonnée parce que moi, je sais qu'elle a été dans une espèce de transe
brélienne.
C'est
ça qu'on apprend, on apprend à se laisser complètement, c'est le lâcher prise total, quoi.
C'est le lâcher prise.
Ça donne lieu à ça.
C'est ce qu'ont vécu tous les invités quasiment. Enfin, dans
oui, d'ailleurs, il y a par exemple Cadmerade qui reprend, qui tente ne me quitte pas.
Wow. Et pareil, il est dans une envolée, il est dans une transe parce que Brel, c'est ça. Brel, ce qu'il cherche en fait, c'est l'aventure, c'est la transe, c'est de jamais s'ennuyer. Et donc quand il chante, il est dans une frénésie dans laquelle quand moi j'ai invité Élodie à venir chanter avec Charlie Winston, qu'elle connaissait pas, sur les canaux d'Amsterdam, parce qu'avec mon équipe, on trouvait ça fou.
En plus, c'est très beau. Il y a une péniche, enfin un bateau qui bouge, et vous êtes en train de chanter pendant que ça flotte, enfin je sais pas comment dire.
Et puis l'eau est vecteur d'énormément de passion. C'est vecteur de tas de choses et surtout d'émotions en fait. Sur l'eau,
c'est
pas ému pareil.
L'eau, c'est la joie liquide, mais c'est aussi la souffrance, c'est les larmes, c'est aussi l'alcool évidemment.
Et la jouissance.
C'est aussi la sueur, c'est la jouissance, c'est le sperme, enfin on entend tout, on voit tout ça.
C'est vrai,
c'est ça, bravo.
Et alors Stéphanie Elbaz, vous n'avez pas eu le temps de répondre. Donc c'est vous avez écrit ce film musical, vous l'avez aussi produit d'ailleurs. Et donc je rappelle pour les auditeurs qu'il passe ce soir à 21h sur France 3, donc vous allez passer une magnifique soirée. Mais racontez-nous ce que vous avez découvert de vous-même, vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Parce que le sujet c'est comment on devient soi.
Ce que j'ai découvert de moi-même, moi j'ai beaucoup écouté d'archives de Brel, et donc j'ai découvert un vrai philosophe que je connaissais pas, parce que bon, moi quand j'ai commencé à écrire des émissions, j'avais fait des études de philosophie avant, donc je pensais que je connaissais pas mal de philosophes, mais Jacques Brel je le connaissais pas lui. Et j'ai découvert un existentialiste né, quelqu'un qui s'est beaucoup ennuyé dans son enfance, et qui explique que en fait la vie ça ne peut être que de la déception par rapport à l'espoir qu'on met dans les autres, et qu'il ne faut rien espérer dans les autres, mais tout espérer en soi. Il dit qu'est-ce que vous voulez que les autres puisse vous apporter si vous attendez quelque chose d'eux, il faut attendre ça de vous-même. Donc Jacques Brel, c'est vraiment quelqu'un qui développe l'idée qu'il faut être une île pour soi-même, qu'il faut attendre de la vie juste les aventures dans lesquelles il faut être d'accord pour s'engager, mais qu'il faut rien attendre des autres. Et c'est pour ça que c'est un esprit fort, que c'est un esprit libre. Voilà.
Et ben on va écouter le philosophe Jacques Brel.
Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique, je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On ne peut pas... une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure, il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas, que moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit.
Alors, c'est très intéressant. Moi, je suis pas du tout d'accord avec lui. D'ailleurs, je trouve qu'on peut découvrir un rêve à 40 ans, à 50 ans, et heureusement. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça fait écho à ce que vous disiez. C'est qu'il a des idées assez précises sur la vie. Il a une théorie de la vie qui est hyper bizarre, qui est parfois, d'ailleurs, lui est reprochée aujourd'hui, parce qu'il y a quelques propos un peu misogynes, on va en parler après. Mais c'est très intéressant. On se demande d'où ça sort. Et il a tenu toute sa vie dans une sorte de fidélité, notamment à cette notion de l'enfance, à cette notion du rêve. Il y a chez lui toute une dialectique où il oppose au fond le rêve au confort, et il dit voilà, si vous préférez le confort, vous allez devenir un bourgeois, un vieux bourgeois, ou même un vieux beauf, hein. Mais en revanche, vous pouvez être à la hauteur de votre rêve comme ça, et essayer d'être fidèle au fond à ce rêve.
Et surtout, ce qu'il dit, il dit, quand on lui dit, mais alors c'est terrible, parce qu'après, si on n'a pas réalisé nos rêves, si on les a abandonnés. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit, mais en fait, personne n'abandonne jamais ses rêves. Tout le monde croit qu'il va les réaliser, que c'est pour tout de suite, c'est pour plus tard, ça va arriver.
Ouais, donc, est-ce on que perd ce jamais sont les rêves qui ne nous abandonnent pas, finalement.
Aussi.
Ils ne nous lâchent pas la grappe, quoi.
Ouais, carrément.
Il y a un peu de ça.
On va écouter Brel parler de cette fidélité à ce rêve, justement.
Je connais 1 million de types qui vont écrire un livre. Des types qui disent, alors tu sais, encore 2 ans. Je vends des bretelles encore 2 ans, hein, tu vois. Mais alors en 73, j'écris un livre. Hein. Et puis si un jour on les rencontre en 73, ils diront, moi je continue à vendre mes cornichons, tu vois, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper.
Alors, vous êtes mortes de rire, les deux, Élodie Frégé et Stéphanie Elbaz. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a tellement raison. Au fond, on est entouré de gens comme ça. Oui, oui, je vais écrire un livre, je vais faire un film. Mais en attendant, ils vendent des cornichons, quoi.
Mais je trouve ça génial comme extrait.
J'ai l'impression que je fais un petit peu ça. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir sur ma situation actuelle.
Mais moi aussi, hein.
C'est terrible. En revanche, pour rebondir sur ce qu'il disait dans l'interview d'avant, les choses liées à l'enfance... les rêves, ils stagnent pas dans le moment de l'enfance et de l'adolescence, je pense. Moi, je crois que parfois, on ne connaît même pas ses rêves et que on se rend compte qu'on avait un rêve au moment où on commence à s'en approcher. Ça réchauffe un peu, ça brûle un peu et parfois, on le connaissait pas. Donc, peut-être que...
Oui, c'est une des questions un peu de l'émission. C'est qu'il a chanté donc dans la quête l'inaccessible étoile. Est-ce que pour devenir soi... il faut accéder à son étoile, savoir ce que c'est, le toucher.
En ressentir.
Ou est-ce qu'il ne faut pas être juste dans la quête, c'est-à-dire l'étoile, elle est inaccessible, mais le fait de l'entrevoir suffit à devenir soi, au fond.
Oui, ça nous rapproche de l'essentiel, quoi, de l'intime. Il faut oser. Lui, en tout cas, il avait le courage d'aller vers les choses qui luisaient au loin. Ils disaient, tiens, c'est intéressant, peut-être, c'est ce truc qui brille là-bas. Tiens, cette couleur, je la connais pas. Je veux goûter.
Il y avait aussi, vous en parlez dans le documentaire, enfin, c'est plutôt un film musical, on entend dire qu'il a été un enfant qui s'est ennuyé dans une famille bourgeoise et qui s'épuisait en vélo. Il avait déjà une forme d'insistance comme ça, de persévérance.
C'était un athlète, hein. Moi, je pense que c'est un athlète de la scène. Ouais. Donc, le vélo, tout ça, ça va ensemble, quoi. Puis c'est quelqu'un qui... La transe aussi, c'est une manière d'exulter. On exulte par le sport, par la scène, par le vélo, la rage, la passion, l'amour. Il était tout ça.
On voit bien dans votre film musical que pour devenir soi, il faut aussi saisir les occasions que la vie vous donne. Et on voit notamment...
S'offrir à l'aventure, C'est vraiment ça.
Et on voit notamment, d'ailleurs, il y a aussi Adamo dans le film, et il se trouve que Adamo a été une rencontre importante pour Brel, qui l'a autorisé peut-être à aimer sa propre timidité, ou peut-être sa propre pudeur. Vous racontez un peu ça ?
Adamo et Enrico, c'était les deux qu'on a invités.
Enrico Macias, oui.
Voilà, nos deux invités de l'émission qui ont connu Jacques Brel et qui ont été amis avec Jacques Brel. Enrico Macias, ils ont partagé leur solitude. Ils avaient quitté leur pays, ils arrivaient ici, ils étaient seuls à Paris. Et Adamo, il s'est reconnu dans sa timidité. Et c'est ça qu'il a aimé chez lui. Parce que Brel était timide, malgré la transe qu'on lui connaît et le fait d'avoir été sur scène. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il n'a jamais voulu chanter. Il a voulu écrire des chansons.
Au début, bien sûr.
Il a chanté au début parce qu'il a été découvert par Canetti comme Brassens, qui lui-même ne voulait pas chanter non plus. Ouais. Mais c'est pas ce qu'il voulait chanter. Et quand il a quitté la scène, personne ne comprenait. Mais lui, il avait jamais voulu monter sur scène, en fait. Ouais. Il voulait juste écrire des chansons. Et je reviens sur l'idée de l'aventure, pour parler 2 minutes du programme. C'est que quand.
On a une heure pour en parler.
Non, mais c'est super. Pour parler de l'aventure et de s'offrir à l'aventure, à l'inconnu de l'aventure, c'est un peu ça qu'on a fait dans ce programme. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous dites, Charles, est-ce que c'est un film musical? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est une comédie musicale? En fait, c'est un programme qui est le programme qu'on avait envie de faire sur Jacques Brel, qui n'a pas de case, parce qu'on avait envie de vivre une aventure. On s'est dit, on a envie d'inviter Élodie Frégé à Amsterdam avec Charlie Winston, parce que Jacques Brel, c'est le Nord. Il dit à un moment, l'enfance est une notion géographique.
C'est vrai.
Et il est dominé par son enfance. Donc le Nord, c'est quoi ? C'est Bruxelles, Roubaix, là où il a donné son dernier concert, Amsterdam, et un peu Paris, où il a vécu ses années de show business et de solitude en même temps.
Bien sûr.
Et donc on avait envie d'aller dans tous ces endroits, et Élodie n'avait rien à vendre en venant. En général, quand vous invitez un artiste à chanter,
mais déjà, c'est pareil ce matin.
Voilà, c'est pareil ce matin. c'est
juste
pareil,
passionné,
ce
quoi. Voilà. Tout ça.
C'est ouais. Quand vous lui prenez deux journées de sa vie à Élodie Frégé, parce qu'elle a du boulot, Élodie Frégé, dans la vie, c'est pas ma copine, c'est pas ma sœur, elle fait pas ça parce que, voilà. Elle est venue parce qu'elle avait envie de le faire.
Mais vous avez l'air de bien vous entendre.
Voilà. Et au début, on vous dit, c'est pas possible, les artistes viendront jamais.
Mais vous avez un casting dingue.
Et ils viennent tous,
c'est
ça.
Thomas Dutronc, d'ailleurs, c'est très touchant parce qu'il chante une chanson de Brel où Brel parle de son père.
Absolument. Voilà. Et Thomas, il est resté une journée. Tous les artistes sont venus et personne n'avait rien à vendre. Et on a parlé de la promo de personne. Ouais. Et en fait, c'est ça l'aventure. Mmh. C'est croire à quelque chose et t'y crois tellement fort que ça va se passer.
Et d'ailleurs, Élodie Frégé.
Le challenge aussi.
Quand je repense à votre parcours, donc vous avez gagné la Star Academy en 2003, je crois. Il y a 20 ans.
Il y a 20 ans.
Et
il y a 20 ans, il y a une semaine, le 20 décembre.
Eh bien, bon anniversaire.
Merci.
Et si on fait justement une analogie entre Brel et vous, la rencontre qui autorise Brel à être lui-même, on dit la première, c'est Adamo. Vous, ce serait qui? Moi, je pensais à Benjamin Biolay, peut-être.
Vous allez rire, mais il y a un truc que j'ai raconté, d'ailleurs.
Ouais.
Mais ça m'est revenu au moment où on a fait l'interview dans les rues avec Gaëtan Roussel et Charlie. En fait, quand j'ai participé à cette émission, il fallait envoyer une cassette vidéo à l'époque. Ouais. il fallait chanter une chanson en anglais, un peu récente, et puis une chanson en français qui nous remuait un peu. Et vous allez rire. J'ai choisi Amsterdam.
Ah oui.
Et ça m'est revenu parce que j'avais complètement oublié, parce que j'oublie plein de trucs de cette époque. Et cette chanson m'a porté chance. Et ensuite, on m'a demandé de la rechanter avec Jacques Brel. Alors, je sais plus comment on avait fait. On m'avait incrusté dans l'image.
Ouais.
C'était fou. D'ailleurs, je pense que c'était sur France Télévisions aussi. Et j'étais rentrée dans une, j'avais quoi, 25 ans, dans une sorte pareil de transe, parce que je savais comment il bougeait, je savais dans quel état il était. D'ailleurs, je crois que cette chanson n'a jamais été enregistrée en studio. Hein. Elle a été enregistrée
sur
un live à l'Olympia, un truc comme ça. Et lui, il est complètement habité, en transe, et je devais le rejoindre là-dessus. Je sais pas si c'est parce que j'ai choisi cette chanson que j'ai été choisie par la prod de TF1 pour faire partie de cette aventure.
Ah oui,
c'était une aventure aussi. Mais ça peut être... en tout cas, il m'a porté chance. Donc peut-être que c'est lui.
Et tu t'en es rappelé quand même, parce que quand Flavien Haas et Rodolphe Paulin t'ont appelé pour te dire « Viens participer à l'émission », t'as tout de suite dit « Amsterdam, c'est ça que je veux faire ».
Oui, voilà. Oui. Cette chanson me poursuit depuis l'enfance, hein, parce que mes parents écoutaient énormément Brel, Brassens, Ferré, tout ça. Donc, c'est cette famille-là, quoi. C'est mon éducation, en fait.
Je veux vous faire réagir tous les deux à une citation de Carl Gustav Jung, le grand psychanalyste, dans « L'âme et la vie ». Et ça m'a fait penser un peu à ce qu'on voit de Brel dans le documentaire, parce qu'on voit pas que des choses très claires et très simples. Donc voilà, je cite Jung, « La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. » C'est quoi la face obscure de Brel?
Le rejet, peut-être. Enfin, je dis ça. Je crois que c'est quelqu'un qui a été rejeté.
Je crois que c'est quelqu'un qui a eu une culpabilité d'être né dans un milieu bourgeois, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, de la psychanalyse de comptoir, mais il a beaucoup... pour lui, non seulement il culpabilisait d'être né dans un milieu bourgeois, mais en plus, il trouvait ça médiocre. Mm. Il trouvait que les valeurs véhiculées par la bourgeoisie étaient médiocres. Donc, il voulait, toute sa vie, se mettre en danger. Mm. Et il dit toujours, on veut empêcher les enfants de... On veut faire brouter l'herbe à des enfants sur des cailloux, pas là où il y a l'herbe. Ouais. Et c'est ça, lui, ce qu'il voulait, en fait, c'était simplement se retrouver soi-même. Je pense qu'il était vraiment dans cette quête. Il sentait bien qu'il n'était pas né là où il devait naître.
Mais d'ailleurs, quand je parle de rejet, sa famille, quand il a joué ses premiers morceaux devant sa famille, ils l'ont complètement rejeté, justement.
Il a quitté l'entreprise familiale pour aller à Paris pour chanter.
Exactement.
C'était pas le destin familial.
Il a arrêté les bretelles. Et vous avez parlé de Stéphanie Elbaz de Quête. Et justement, on va écouter Jacques Brel.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure. Aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désir.
des espérances et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler. L'inaccessible étoile.
Jacques Brel, La Quête.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Alors nous sommes toujours avec Stéphanie Elbaz, productrice et autrice de ce très beau film musical Une journée avec Brel, qui passe ce soir à 21h sur France 3, et avec Élodie Frégé, qui est une des multiples musiciennes ou musiciens du film qu'on voit chanter, et notamment cette incroyable reprise du Port d'Amsterdam avec Charlie Winston. Et là, on a entendu La Quête, tout est dit, c'est un peu le thème de l'émission. Pour devenir soi, il faut déjà avoir une quête, peut-être pas nécessairement arriver au bout de la quête, et vous montrez bien dans ce film musical le rapport de Brel à la bourgeoisie, comment il a étouffé dans ce milieu social et comment aussi il a réussi à en sortir avec un mélange comme ça de goût de l'aventure, de goût du risque et de persévérance. Votre proximité avec Brel vous permet de vous dire quoi ? Au fond, tout est possible, il faut avoir de la chance, c'est surtout une question de persévérance. Par exemple, il y a un mot qu'on entend bien là, dans la quête, c'est la désespérance, il le dit hyper bien. On sent qu'il y a quelque chose d'obscur et que finalement, il entrevoit sa lumière grâce au fait de pas refuser l'obscur.
Absolument. Il y a le fait il y a à la fois de l'ombre et de la lumière chez Jacques Brel, mais il y a aussi beaucoup, pour être pragmatique, là, de travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé et qui dit que quand tu veux, tu l'as. Ouais. Il dit tu veux quelque chose, il suffit de le vouloir très fort pour l'avoir. Mmh. Tout est possible. Et c'est ça qu'il y a de commun avec Brassens, qui on avait fait l'autre Une journée avec.
Ah oui, j'étais là déjà.
Voilà, ils étaient déjà là. Ouais. C'est que c'est des hommes qui, à un moment de leur vie, se sont dit je vais bosser, je vais y arriver. Et Jacques Brel, enfin c'était pour lui un sacerdoce énorme. Il a énormément travaillé pour y arriver. Voilà.
D'ailleurs,
c'est un son de Brel qu'on connaît. Écoutez bien.
Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline.
Bon, ça revient à dire 1% de génie, 90% de sueur, quoi. Mmh. Moi, je pense que c'est un peu faux. C'est pas, y a pas que ça. Il y a autre chose, quand même.
Moi, je sais pas, je suis complètement sous le charme de Brel. Alors, le problème, c'est que je prends tout ce qu'il dit pour argent comptant. J'osais pas vous raconter l'histoire du homard parce que je savais pas comment vous la raconter. Oui, je suis très contente, Charles, que vous l'ayez gardé.
Ouais, ouais.
Pour moi, c'est très vrai ce qu'il dit. C'est-à-dire que, en effet, il y a des gens qui disent je vais écrire un bouquin qu'ils n'écrivent jamais. Puis il y en a qui vont s'y mettre et qui vont le faire. Le travail, c'est ça. Si, avec le travail, ce qui est génial, c'est que si tu veux, tu peux. Et moi, je trouve ça très inspirant ce qu'il dit parce que, du coup, c'est à portée de tous.
Alors, dans votre film musical, on découvre des choses dingues, des reprises étonnantes. Et moi, j'ai adoré celle-là qu'on va écouter. C'est Sofiane Pamart au piano, YG Pablo, c'est comme ça qu'on dit ?
YG
Pablo, le rappeur belge qui fait beaucoup de duos avec Damso et qui chante. Mais ce qu'il faut dire, pour aussi donner envie, c'est que vous avez fait installer un piano à queue sur une plage du nord de la France. La scène est sublime, c'est complètement onirique. Et écoutons un petit peu.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir en fleurs et on a vu en fleurs. T'as voulu voir en bourg et on a vu en bourg. J'ai voulu voir en verre, on a revu en bourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé en fleurs, on a quitté en fleurs. T'as plus aimé en bourg, on a quitté en bourg. T'as voulu voir en verre, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. comme toujours.
Ah bon?
Mais
alors quand on... Attends, essaie de brûler quand ça monte là.
Je n'irai pas plus loin.
Oh là là, c'est magnifique.
Je te préviens.
Je pleurais.
J'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tout. Les flambements de la valse musette et de l'accordéon.
Ouais, bon, on est obligé de reparler, désolé.
Ah là
et donc
là.
Il y a plein de choses comme ça dans votre film musical. Et donc ce Luigi Pablo, il est très brélien. Alors ça nous permet aussi de nous demander si c'est pas le premier rappeur Brel.
Complètement.
D'ailleurs, il y a aussi Abdelmalik dans le film musical, qui reprend Les Vieux Amants, je crois.
C'est ça, qui reprend
ces gens-là.
En fait, on s'est dit comment le faire chanter par la nouvelle génération aussi.
Ouais.
Et c'est assez fou parce que bon, fallait faire venir Sofiane Pamart. C'était pas gagné. Et moi, c'était vraiment une gageure pour moi parce que ma fille l'adore. Donc, il faut absolument que j'y arrive.
Ouais.
Donc, je me suis dit, bon, si on lui met une piano sur la plage du Portel, une plage du
ça
Nord,
a marché.
Peut-être qu'il va venir. Et il est venu, donc avec Luigi Pablo. Et c'est vrai que cette désinvolture avec laquelle il chante, tu vas voir, Elodie, quand tu vas voir les images, il balance comme ça.
Émue, hein.
T'as voulu voir Vesoul dans genre, bah, tiens, t'as voulu les voir.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà,
ouais.
C'est hyper insolent. Et en fait, il s'est réapproprié Brel d'une manière magistrale.
Oui.
De la même manière qu'Abdelmalik, c'était très, très fort. On a tourné dans un lieu à Roubaix qui s'appelle le Non-Lieu, qui est une ancienne usine reconvertie.
Ah oui, oui, je connais.
Magnifique. Et en fait, il est très, très moderne, très actuel, Brel, dans ce qu'il raconte, dans les portraits.
Ça, c'était un slammer, en fait.
Absolument.
Il y a énormément de slam chez Brel. Très emporté, quoi. Mais
ouais.
Quand on pense à Stromae, par exemple.
Bien sûr. C'est l'héritier direct.
Oui,
ouais.
Bien
ouais.
Sûr.
Il y a aussi Oxmo Puccino, un petit peu, qui est souvent présenté comme le Brel du rap français. Il y a autre chose qu'on voit aussi dans votre film musical, c'est que bien souvent, le premier rapport qu'on a eu à Brel était paradoxalement par l'image, autant que par le son, de voir cet homme en scène, en sueur, se donner complètement, être en transe. C'est intéressant d'avoir cet accès-là aussi.
Mais c'est obligatoire. Parce que, en fait, le concept d'une journée avec, ce qu'on avait mis en place pour Brassens, c'était de ne mettre que de la voix off. Et malheureusement, quand j'ai commencé à dérocher les archives de Brel, bah, j'ai vu que ça ne marchait pas. Mmh. Parce que Brel, il nous faut l'image. Ça ne marche pas quand il n'y a que la voix. C'est qui est très marrant avec lui. Et on a besoin de le voir transpirer.
Quoique, quand on... Pardon, je te coupe.
Je t'en prie.
Mais quand on entend... quand j'ai entendu Amsterdam la première fois que j'étais enfant,
oui.
En fait, c'est marrant parce qu'il a quand même la possibilité
on l'imagine.
De faire venir des images dans ta tête. Quoi. C'est...
Oui, je parlais de quand il parle.
Oui, quand il
de
parle.
De ses archives, tu vois. En fait, tu as besoin de le voir.
Oui.
Tu as besoin de le voir transpirer, exprimer.
Oui, c'est ça.
Ses grimaces, sa sueur, etc. Et c'est ça qui est très particulier à Brel, c'est la transe en permanence. Quoi.
Alors justement, on va écouter maintenant une archive un peu gênante, mais on va voir un peu comment on l'interprète.
Ah.
Je crois qu'un homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme, du mâle. Et je crois que par essence, la femme l'arrête. Alors l'homme s'arrête près d'une femme, et puis la femme a envie qu'on lui ponde un œuf, toujours. Et puis on pond l'œuf. Alors l'homme, il est bien, il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante, je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de ce œuf. Et alors, il faut de la paille en dessous. Alors, on met de la paille. L'homme, il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'œuf. Et puis après, il y a des courants d'air. Alors, il bâtit des murs. Et puis après, il reste là. Et l'homme est un nomade. Et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp d'une espèce d'aventure, quel qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans. Quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit, j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme a un rêve, c'est de garder le gars. Mais j'ai pas bien compris les femmes.
Alors, heureusement, il l'a voulu lui-même. Alors, attention, c'est un extrait de 1971.
Oui, oui.
Je voudrais vous dire un truc que j'ai découvert en préparant l'émission. C'est qu'il y a pas mal d'archives comme ça qui tournent pour se moquer de lui, notamment des vidéos masculinistes où il est très misogyne. Et il y a aussi un extrait où il dit « Pour moi, la plus belle valeur, c'est la fidélité ». Et après, il dit « Bien sûr, entre hommes, hein, parce qu'autrement, c'est pas intéressant. »
La fidélité à soi-même, quoi.
Ouais, et surtout entre hommes, entre bons potes, quoi. Et en fait, j'ai découvert que tous ces extraits, qui sont un peu gênants, franchement, on a un peu mal pour lui, en fait, viennent de la même interview.
Ah.
Où visiblement, il n'était pas très en forme, il était aux Marquises, il était bourré, il était un peu aigri.
Et condamné,
ouais. Il avait perdu un de ses amis. Et en fait, c'est tout ça. Tous ces mauvais sons viennent de la même archive. Alors, c'est pas pour excuser ce qui est quand même une misogynie. D'ailleurs, vous en parlez dans le film musical, il y a une scène où il y a Lio qui est avec Aurélie Saada, et elle constate toutes les deux que visiblement, il avait des très forts accents misogynes. Mais quand même, à sa décharge, on peut peut-être dire que la plupart de ses sons viennent de la même interview. Comme si aussi, vous disiez Brel est philosophe, mais en fait, beaucoup d'artistes, ils ont quand même compris maintenant qu'il ne faut pas s'exprimer sur tout, tout le temps, que c'est pas, ils ne sont pas tous philosophes ou sociologues ou anthropologues. Peut-être qu'il est le premier à avoir... Il aurait dû se taire, quoi.
J'ai envie de dire que, heureusement que Brel n'est pas à notre époque, là, des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, sa fille France l'a bien compris. Moi, j'invite vraiment les gens à aller à Bruxelles, à la Fondation Brel, et aller dans la salle de cinéma, de la salle de projo de la Fondation, où il y a les films de France. Et en fait, vous saurez tout sur Jacques Brel, mais seulement si vous y allez. C'est une manière de rester dans l'intimité et de ne pas exposer sa vie en pâture. Ouais. Et c'est très intelligent.
Alors, je vous interromps parce que, justement, France Brel est dans votre documentaire. Oui. Elle parle de son père. D'ailleurs, elle parle aussi de son père en reconnaissant qu'il n'a pas été un très bon père. Donc voilà, on n'est pas dans la panégyrique. Mais ce qui est très intéressant pour nos amis belges, c'est qu'aujourd'hui, précisément, il y a, dans cette Fondation Brel à Bruxelles, trois films, justement, de France Brel où elle raconte son père. Et elle dit des choses très jolies que vous montrez aussi dans votre film musical. C'est que Brel adorait raconter des histoires et qu'elle, elle adore raconter des histoire de son père.
C'était une rencontre incroyable, France, parce que souvent, quand vous rencontrez les enfants des gens qui ont été si énormes, si charismatiques, ils sont un petit peu rentrés dans eux-mêmes, ils s'expriment pas. Et alors France, elle a un charisme de fou, elle est complètement incroyable, c'est quelqu'un qui a un énorme charisme, qui s'est énormément construite indépendamment de son père et à la fois dialectiquement par rapport à son père. Et c'est une très très belle rencontre. Et donc elle a réalisé toute sa vie des films, elle vient de sortir un bouquin d'ailleurs sur son père, et ce qui est bien c'est qu'elle dit tout, c'est-à-dire qu'elle est en effet, elle ne dit pas que le bien, et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est elle qui le dit dans un endroit qu'elle maîtrise, qui est la Fondation Brel, où vous allez pouvoir découvrir plein de souvenirs de Jacques Brel, plein de choses qui lui ont appartenu. Ouais. C'est un voyage magnifique à faire à Bruxelles.
En tout cas, on comprend qu'elle a dû devenir elle-même en étant la fille de Jacques Brel, ce qui n'a pas dû être facile tout le temps. Une autre question que je voudrais vous poser, vous, Élodie Frégé, vu que vous avez fait une reprise, est-ce que ce n'est pas une métaphore même du fait que pour devenir soi, il faut en passer par les autres? Finalement, quand vous interprétez Brel, est-ce que vous ne devenez pas un peu plus vous-même en même temps?
Oui, c'est vrai que passer par les tableaux de quelqu'un d'autre. En fait, c'est un portraitiste, Jacques Brel. Il y a énormément de portraits. Et passer par ces portraits, c'est se fondre dans ce décor-là, quoi. Et peut-être accéder à son propre décor qu'on n'avait pas imaginé, avoir ces couleurs-là, ces ombres-là aussi. Ouais. Et ça rejoint d'ailleurs l'idée que pour briller et pour être lumineux et pour vivre à fond, il faut se blottir dans ses ombres, parfois.
C'est ça, exactement. C'est très joliment dit. Il faut se laisser aussi traverser par l'autre. Mmh. C'est ce que vous faites dans votre reprise.
Et l'autre, ce sont des ombres aussi. Et le jour où on ne les voit plus comme des ombres et qu'on les voit comme des êtres vivants, capables de faillir, de défaillir et d'être comme nous, quoi, eh ben, ça aide beaucoup.
Et d'ailleurs, il y a aussi une sublime reprise de Louane. Elle reprend quelle chanson déjà? Le prochain amour.
Le prochain amour.
On va l'écouter parce que c'est un peu comme vous. On a l'impression quand même de découvrir Louane à l'occasion du fait qu'elle sorte d'elle-même dans une sorte de transe pour être habitée par Brel. Louane.
Mais on a beau faire, mais on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire.
C'est une émission qui me fait souffrir. Je dois à chaque fois reprendre la parole alors que c'est canon. Mais en tout cas, vous avez compris, chers auditeurs, que c'est ce soir à 21h sur France 3. Si vous voulez passer une bonne soirée en découvrant, au fond, ce que disait Nietzsche, c'est que dans la vie, il y a un combat en chacun d'entre nous, dans le corps de chacun d'entre nous, entre d'un côté, ce que Brel aussi appelait confort, prévisibilité, mettre ses pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés, et de l'autre, ce qu'on peut appeler l'aventure, le rêve. Nietzsche appelait ça l'art. Nietzsche dit, en gros, il y a deux grands instincts, parce que c'est la question de l'émission, c'est comment devenir soi. Et au fond, pour devenir soi, ce serait un peu caricatural de dire, voilà, je vais renoncer à tout confort, à tout enracinement dans ma classe sociale et être un pur rêve. Nietzsche est plus précis et ça peut nous éclairer. Il dit, au fond, en chacun d'entre nous, il y a la guerre. Entre, d'un côté, l'instinct du confort, parce qu'on a peur, on a besoin de confort, et ce qu'il appelle l'instinct de l'art. Quand on prend le risque, comme ça, d'aller au-devant du monde, ce que vous avez appelé, Stéphanie Elbaz, l'aventure. Je trouve que Brel est très nietzschéen.
Je suis complètement d'accord. Il y a quelque chose, moi, que je trouvais intéressant dans ce qu'on vient d'écouter dans la chanson de Louane, qui est vraiment... Ouais. Incroyable, enfin vraiment, chair de poule. C'est en fait le prochain amour. C'est que cette chanson vient contredire toute la théorie de Brel, où il est censé être en veille sur tout et de tout savoir sur tout. Il a une théorie sur chaque thème. Et là, il dit en gros, je vais mettre entre parenthèses mon esprit, ma raison. Je sais que ça va me faire souffrir, que le prochain amour, c'est ma prochaine défaite, mais je vais quand même y aller parce que c'est trop bon. Bah, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est le moment où il est d'accord pour lâcher prise et pour arrêter de théoriser sur la vie.
Et l'occasion pour nous de rappeler évidemment ce que votre film musical montre très bien, à quel point Brel écrivait bien. On va faire résonner cette beauté en écoutant Luigi, joueur 1.
Tous les jours, c'est la course 1, télé 2, télé 1, graille sur le pouce, 3 balles pour le crous, trop pauvre pour l'école, trop riche pour la bourse, mes darons à mes trousses, j'peux rien dire, j'ai la frousse, première année L1, deuxième année L1, troisième année L1, ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse, ma vie dégueulasse, carré croix, je m'efface, rage quitte. À faire des gosses après le mariage, acheter dans la pierre, léguer un héritage, rêve de la vie d'artiste, des liasses, des lingots d'or, des habits larges, et toute ma vie j'ai menti,
toute ma vie premier, dernier de la classe, ma mater doit garder la face, donc je vais à la fac, dégueulasse, soirée étudiante, mauvais vin, je veux choper le das, ma copine me lâche, fax, je n'ai pas de cash, fax, un de mes meilleurs gars la tchatch, j'ai perdu le match,
un des meilleurs gars qui rappe dans la ville d'en face,
pour s'en sortir ici, il faut de vrais maracas.
Un fusil de chasse, rose qui dépasse. Je fais rentrer ce cash efficace sur les sujets qui fâchent.
Démarche d'Alpatch, je ne mets pas de père falche. Des Air Force basse et ma tchatch lave comme un car wash.
J'envoie quatre plaques sur paire de mar, Gigi. Je défends la zone comme Nesta Maldini. Partout dans ma tête, c'est les États-Unis. Je rentre dans le top, genre est-ce qu'on m'a suivi? Mais est-ce qu'on m'a suivi?
Est-ce qu'on t'a suivi?
Est-ce qu'on t'a suivi?
Ou est-ce que t'as?
Ah, je quitte.
C'était Luigi avec Turi et c'était joueur 1.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Élodie Frégé et Stéphanie Elbaz et nous parlons de ce très beau film musical sur Jacques Brel. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du rapport de Brel à la mémoire. Parce que dans un de ses plus grands titres, Ne me quitte pas, il dit voilà, on peut recommencer de zéro, tout peut s'oublier, on peut oublier, on peut repartir. Et il parle beaucoup de ça souvent. Et puis, il y a un autre titre qui est On n'oublie rien, tout reste. Ça fait un peu penser à ce que dit Bergson, hein, qui dit que le passé ne passe pas, que le passé persiste indéfiniment. On a l'impression que Brel, il est déchiré entre d'un côté une sorte d'illusion moderniste qu'on peut laisser le passé derrière soi et aller de l'avant, et puis l'évidence que ça marche pas.
Ouais, je pense que Brel, il est vraiment dominé par son enfance. Donc le passé, ouais, c'est vraiment l'enfant et le père de l'homme pour lui. C'est tout ce qu'il fait est dominé par son enfance et il va toute sa vie chercher, et même musicalement finalement, son espèce de ritournelle. Charles, vous le disiez tout à l'heure, l'histoire de... Il pédale à vélo dans les rues de Schaerbeek quand il est enfant, avec une frénésie pas possible pour s'épuiser. En chantant, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il veut s'épuiser en chantant, et pour lui, il n'y a que ça de vrai. C'est d'être dans la difficulté, d'être dans la douleur. Il écrit debout pour avoir mal. Il chante jusqu'à l'épuisement, et s'il transpire pas, il dit qu'il est pas honnête et qu'il faut qu'il arrête de chanter. Et ça, finalement, c'est ce qu'il a expérimenté dans son enfance, c'est qu'il veut souffrir. Mais il veut réparer la condition, hein, je pense, qu'il n'a pas eu.
C'est ça.
Tu vois, d'ailleurs, vous voulez dire réparer sa blessure d'être un enfant de la bourgeoisie ?
Moi, je pense, ouais. C'est comme ça que je l'ai compris.
Et est-ce qu'il n'a pas provoqué aussi le rejet de sa famille quand il leur dit je vais à Paris, je vais m'installer là-bas pour faire de la musique ? Et il dit ils m'ont coupé les vivres. Mais en fait, ils lui ont donné la vie à ce moment-là.
Absolument.
Sa vie, quoi. Celle peut-être dont il rêvait, mais peut-être qu'il ne savait pas qu'il rêvait de ça, mais que c'est devenu ce qu'il est maintenant pour nous, en fait. Un homme vibrant, puissant, et à la fois très fragile.
Et vous, Élodie Frégé, comment ça résonne par rapport à votre histoire ? Comment ça vous renvoie à vous-même ? On connaît votre histoire, vous venez de Cosne-sur-Loire, en Bourgogne, d'ailleurs comme l'écrivain Arnaud Catherine, qui a été à ce micro il n'y a pas longtemps.
Traversé par un fleuve aussi. Donc...
comment s'appelle ce fleuve ?
Bah, la Loire, Cosne-sur-Loire.
C'est ça. Oui, je suis vraiment... Merci, j'aurais pu y penser. Et donc vous êtes sorti d'un milieu...
moi, plutôt modeste.
Voilà, donc c'est plutôt le schéma inverse.
Mais modeste, mais habité par la voix de Jacques Brel et de ses pères à cette époque-là. C'est marrant parce que je crois que mes parents partageaient pas mal les idées de Jacques Brel.
Et alors, quand j'ai préparé l'émission, je suis tombé sur une très belle chanson de vous qui s'appelle La Fidélité, dans l'album que vous avez fait
Jacques
avec Benjamin Biolay.
C'est Jacques Lanzmann qui me l'avait offerte. Il est parti un peu... très peu de temps après.
Ouais.
Et puis, on s'était dit, tiens, ça serait rigolo, moi qui aime bien Jacques Lanzmann, quoi, et puis Dutronc, tout ça, que j'écrive pas tout, et que Benjamin Biolay n'écrive pas tout sur ce disque. Et puis, je lui dis, il était un peu sourd, à ce moment-là. Et je lui dis, je sais pas, est-ce qu'on parle de la fidélité ou pas ? Est-ce qu'on est fidèle à soi ? On a vraiment une discussion philosophique. Et puis, il écrit, comme ça, un peu tremblant, la fidélité, alors qu'on parlait d'infidélité.
Ouais.
Et puis, il me pond ces mots... c'est seulement comme ça que je suis fidèle, finalement, fidèle à moi-même.
Donc c'est une très belle chanson, ça m'a fait un peu penser à ce que dit Brel aussi de la fidélité, et c'est pourquoi on va l'écouter un peu juste pour le plaisir.
J'étais jeune. Hein.
Que ce soit.
Alors, vous étiez jeune ?
J'étais jeune et c'est vrai que ça ressemblait pas du tout aux chansons que j'écrivais moi à l'époque. C'était beaucoup plus finalement direct et simple.
Ouais.
Mais il y a un sous-texte qui peut-être peut fleurir et évoquer d'autres.
C'est assez gainsbourgien aussi la rythmique.
Oui. Disco, gainsbourgien, ouais. Puis les violons comme ça, c'est très gainsbourgien.
Mais ça vous parle quand même, cette dialectique de Brel, cette prise de risque, l'aventure, le confort. En fait, quand vous avez gagné la Starac...
Moi, je déteste le confort. Hein. Je fais tout pour me mettre dans l'inconfort, pour réaliser des choses dans l'urgence. Justement, quand tu m'as proposé de faire l'émission, je savais que j'avais pas de temps, quoi. Et je connaissais pas la chanson par cœur. Charlie Winston, je l'avais jamais rencontré. Je me suis dit, ah ouais, encore un challenge? Eh ben, vas-y, on y va. Je veux sentir ce truc. Donc, c'est ça que je partage avec lui.
Oui, d'ailleurs, je précise que vous étiez pendant quelques temps, là, sur les planches avec Jean-Pierre Darroussin.
Oui.
Pour la pièce, Le Principe d'incertitude.
Pareil, quoi. Ça, énorme challenge. Un mois pour apprendre un texte où j'ai des monologues de 4 km de long. Je remplace Laura Smet qui a créé la pièce avec Jean-Pierre à Paris, l'année dernière. Et qui pouvait pas faire la tournée. Et pareil, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Mais mon Dieu, mais et puis à la fois, faut que je le fasse. J'adore, je veux sentir ce truc d'urgence. Je me jette dans le vide, je vais peut-être mourir, mais en fait non, je suis en vie.
Et ben c'est ça, et c'est ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup Stéphanie Elbaz dans votre film musical, donc Une journée avec Brel, qui sera ce soir sur France 3. Et on a l'impression que vous avez réussi la prouesse. Alors il faut bien expliquer quand même que c'est aussi Gaëtan Roussel qui est comme le directeur artistique de ce film musical. On n'a pas beaucoup parlé de lui.
On n'a pas du tout parlé de lui.
Ben, il est temps.
Absolument.
Il est le chef d'orchestre. Il organise les répétitions. Il donne des conseils un peu sur comment placer sa voix. Donc c'est merveilleux. On découvre Gaëtan Roussel. On sent. Moi je le connais pas d'ailleurs. J'aimerais bien le recevoir sous le soleil de Platon, mais on sent que il est vraiment très sympa, quoi. Ouais. Très doux et très, très expert aussi, quand même, de la rythmique, comment placer sa voix. Et donc, on est aussi accompagné par Gaëtan Roussel.
C'est une émission qui est vraiment dirigée par Gaëtan. Tous les artistes qui sont là ont été invités par Gaëtan avec Flavien Haas et Rodolphe Paulin. Ouais. Donc, c'est vraiment, ils ont décidé ensemble qu'ils allaient inviter ces artistes. Et Gaëtan, en fait, il est là pour assurer que l'esprit de Brel va être là. Parce que lui, il faut savoir que.
Il tient un flambeau.
Il est très, il très influencé. Je me souviens d'une façon de chanter de Gaëtan Roussel au début de Louise Attaque, où il y a une scansion comme ça qui rappelle Brel.
Complètement, la chanson Léa, par exemple, c'est vraiment du Brel. Et Gaëtan aime les ritournelles comme Brel. Ouais, et il a cette frénésie quand il chante qu'il a, je pense, vraiment. Ouais,
ouais. Et puis il accélère aussi la rythmique comme dans la valse à mille temps. Ouais. D'ailleurs, je précise un truc très drôle, c'est qu'ils n'y arrivent pas trop à faire comme Brel. Et ils se mettent un moment tous ensemble, Enrico Macias, vous, Élodie Frégé, Thomas Dutronc.
Oui, c'est vrai.
Pour essayer d'accélérer comme ça, et puis ça ne marche pas trop.
En fait, la valse à mille temps, c'est quand on a rencontré France au tout début pour lui raconter notre projet, puisqu'on l'a rencontré à Bruxelles. On lui a dit la chanson qu'on aimerait faire jouer en chorale, c'est la valse à mi-temps. Elle a dit c'est une très très mauvaise idée. Ouais. Parce qu'elle est inchantable. Ouais. Et donc ça nous a vachement excités avec Xavier Selva et Thierry Gauthier, mon équipe. On s'est dit si elle est difficile, c'est ça qui est génial. Voilà. On est un peu comme Élodie, on aime bien les aventures. Et du coup, on s'est dit c'est très marrant, comment on va faire pour qu'elle s'accélère. Et elle nous a dit vous verrez à la fin, vous mettrez la voix de papa. Bon, elle avait raison, à la fin on a mis la voix de papa.
C'est ça, c'est drôle.
Ouais. Mais n'empêche.
Il y a Thomas Dutronc, à un moment, il arrive bien quand même. Il a l'air aussi. Très
il a joué Manouche un peu, Thomas ou...
Pas spécialement Manouche, non. On est avec le backing band sur la scène à la fin. Et tout le monde y arrive plutôt très bien. Mais pour que ça accélère hyper, hyper vite, et puis on a envie d'entendre la voix
de la frénésie, quoi.
Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge, quoi. Pour tout le monde, c'était compliqué de le faire.
Et c'est aussi le sujet de l'émission. Au fond, vous dites Gaëtan Roussel était là comme un gardien de la mémoire, de la fidélité à Brel. Mais aussi, il... accompagne les uns et les autres pour qu'ils chantent à leur manière. C'est un peu notre sujet. Au fond, pour devenir soi, il faut passer par l'autre, mais quand même revenir à soi. Et il y a plein de moments où on découvre Élodie Frégé, par exemple, mais aussi Camille Lelouch. On a l'impression qu'au contact de Brel, au fond, les gens se révèlent dans leur vérité. Et Camille Lelouch, je ne savais pas qu'elle chantait comme ça, elle fait une reprise des Vieux Amants complètement dingue, que je propose d'ailleurs d'écouter maintenant. Camille Lelouch, je précise. Voilà, c'est dingue, hein.
Elle est au bord des larmes. Elle est au bord des larmes quand elle chante, elle est vraiment dedans.
Ça se sent.
Et ben voilà, c'est le sujet, hein. Comment se rapprocher de sa propre étoile? Il faut s'autoriser à trembler, s'autoriser à la transe, s'autoriser à n'être plus soi, probablement.
Ouais,
ça me rappelle une phrase de René Char qui dit, c'est pas ces mots exacts, si tu ne sais pas prendre le risque de te perdre hors de toi, dans le sanglot, dans l'aventure du monde, tu pourras jamais devenir toi-même. C'est un peu ce que raconte votre film.
Oui, c'est vrai. Et je suis très contente que vous disiez que chacun va l'interpréter comme il est lui-même. Parce que c'est vraiment ça. On a plein de morceaux de Brel revisités. Et avec Gaëtan qui assure finalement la continuité, mais qui va chercher... quelqu'un qui est énormément dans l'écoute, c'est un très grand musicien, et qui est énormément dans l'écoute et qui va aider chaque artiste à faire vraiment ce qu'il a envie de faire.
Ouais. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que tout est en mouvement, comme si tout le monde marchait vers le lieu où il y aura le concert le soir, qui est d'ailleurs une sorte de rue à ciel ouvert, donc c'est comme une salle de concert en plein air.
Oui, en fait, Roubaix, c'est le lieu où Jacques Brel a donné son dernier concert en 67, et c'est le lieu où on a décidé de faire ce concert. Enfin, ce concert showcase, il n'y a pas de public, c'est les artistes qui, à la fin, ceux qui restent, vont se poser quelque part et vont chanter ensemble. Et on s'est mis à Roubaix, où il y a beaucoup d'usines qui ont été retransformées en friches culturelles, en lieux culturels. Mmh. Donc on est à la condition publique, et c'est une rue découverte. Et c'est là qu'on a monté notre concert. Et donc, tout le monde se retrouve. Il y a des gens qui viennent de Bruxelles, il y en a d'autres qui viennent de Paris, d'autres qui viennent d'Amsterdam. Et voilà, et tout le monde se retrouve là.
Voilà, et le film accompagne ce mouvement. Et ça se finit par le début du concert, avec justement la valse à mille temps. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la fuite de Brel à la fin de sa vie, enfin au milieu plutôt, un peu à la Rimbaud. Il s'en va comme ça aux îles Marquises, en Polynésie française. Quelque part, il tourne le dos à la scène, il renonce. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a quelque chose de très noir qui s'exprime à ce moment-là.
Bah déjà, il est malade. Donc, enfin, il n'avait pas prévu d'être. Il n'était pas malade avant de prévoir de partir. Il prévoit de partir et il apprend qu'il est malade. Donc, je pense qu'il est allé au bout et que vous parliez de Nietzsche tout à l'heure. Il a vraiment été le maître d'œuvre de sa vie jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a vraiment décidé jusqu'au bout ce qu'il allait faire de sa vie et il n'était pas question qu'il en fasse quelque chose de médiocre.
Écoutez encore Carl Gustav Jung. Et vous allez voir que ça parle un peu de Brel et peut-être de vous deux aussi. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. Je répète, c'est dingue, on dirait vraiment que c'est ce que Brel a vécu et ce que vous avez très bien filmé, Stéphanie Elbaz. La vie nécessite pour son épanouissement, mais vraiment que chacun en prenne de la graine, non pas de la perfection, mais de la plénitude.
Ben, je reviens sur votre archive de tout à l'heure. S'il était né beau, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait.
Ouais.
C'est l'imperfection
c'est
du
film,
départ.
Hein. Ouais.
C'est
ouais.
L'imperfection du départ. Il n'est pas beau, qui fait qu'il va avoir envie de devenir qui il est. Et il dit que c'est ça qui est fondateur. Moi, je trouve que c'est pour ça que je vous dis que moi, j'adore sa philosophie. Ouais. Parce qu'en fait, elle est hyper existentialiste. On peut faire absolument tout ce qu'on veut de notre vie. C'est ça que je trouve génial chez lui.
Du coup, je rebondis, je vais peut-être être complètement à côté de toutes nos pompes, mais ça me fait penser à Nietzsche, qui disait « se sentir coupable, c'est refuser la vie ». Et en fait, lui, peut-être qu'il s'est senti coupable, Jacques Brel, d'être né dans le milieu dans lequel il était né, en plus d'être laid. Et il a embrassé ses choix, et il a embrassé peut-être sa pudeur, sa laideur, son extravagance, sa sueur. Et finalement, il n'a été jamais coupable que d'être... très très proche de lui.
Ouais, d'ailleurs, ça me rappelle un écrivain belge, Jean-Claude Pirotte, très beau, qui veut se battre contre la culpabilité qui nous entrave et qui dit « Au fond, je ne suis pas coupable de l'état du monde ». Il y a presque quelque chose de ça. Élodie Frégé, vous préparez, je crois, votre 5e album. Il sort quand ?
Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait 10 ans que je n'ai pas sorti de disque, mais j'ai fait tellement de choses et je suis en train de me demander, parce que depuis tout à l'heure, on parle de... Je suis en train de me demander si je n'ai pas un peu la frousse et s'il ne faudrait pas que je me mette un peu justement au travail. Parce qu'il n'y a pas que le talent. Il y a
mais
le
attention,
travail.
Je voudrais qu'on conclue là-dessus. Brel n'arrête pas d'opposer la fidélité à ses rêves à la peur, mais il dit aussi de façon très belle, et on le voit dans votre film musical Stéphanie Elbaz, que c'est bien d'avoir peur, qu'il faut accepter d'avoir peur. Simplement, il faut pas y aller en ayant conditionné le fait d'y aller au fait de plus avoir peur. Il faut y aller avec sa peur. Eh bien, Élodie Frégé.
Très bien, merci.
Bon, allez-y avec
votre
peur.
J'y vais avec peur et passion.
Et allez-y aussi avec plus de plénitude que de perfection.
Tout en
merci
paix.
Beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés ce matin sur le Soleil de Platon. Stéphanie Elbaz, vous êtes productrice et autrice de ce film ce soir sur France 3, Une journée avec Brel.
Réalisé par Gauthier Leduc et rédaction en chef Xavier Selva.
Merci pour la
super
précision.
Équipe.
Bravo à l'équipe, c'est vraiment très beau. Élodie Frégé, merci d'être venue avec nous.
Merci.
Bravo encore pour cette reprise du Port d'Arsenal.
Avec joie.
Charlie Winson et vous avez réussi à effacer un peu Bowie dans mon cœur et dans ma mémoire. Il fallait le faire, mais un peu seulement. Cette émission a été préparée super bien. Merci beaucoup Estelle par Estelle Gap. Elle a été réalisée par Maria Pasquet. À la technique, Mathieu Bérény. Et à la programmation musicale, Valentine Chaudebois. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h exactement dans la caverne de France Inter, sous l'étoile inaccessible de Platon. À demain.